on est en septembre, on aurait dû le faire en mai. Je ne sais pas ce qu'on faisait en mai. Des visites expo, je pense. Bon, bref, vous n'allez pas nous en vouloir. On est en retard de quelques mois. Ce qui est fascinant, c'est en organisant cette séance, on a eu beaucoup de mal à trouver des historiens qui ont écrit sur la mode et mai 68. Il y a des ouvrages sur la mode dans les années 60. Il y a l'ouvrage de Dominique Veillon, notamment, qui était un ouvrage issu d'un colloque qui s'est tenu au Centre Pompidou il y a 8 ans peut-être maintenant, 8 ou 10 ans. Et il y a un ouvrage écrit par une Brésilienne qui est déjà venue présenter à la conférence, qui s'appelle Maria Reynaud, écrit en portugais, Mode et Révolution 60, pareil. Mais en France, nous avons vraiment peiné à trouver. Donc on est ravis d'avoir trouvé quelqu'un. Léa Mazet, historienne de l'art à l'École du Louvre, et elle a fait ce travail dans le contexte du master de l'École du Louvre, et le travail s'est prolongé par la suite dans le cadre de l'exposition au Musée des Arts Décoratifs, le MAD, tenue correcte exigée. Voilà, donc on est ravis de vous avoir, Léa. Merci beaucoup.
Merci d'être là. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous parler donc sur les corps, la rue, déconstruction vestimentaire d'une jeunesse révoltée. Donc on va essayer de voir quelle influence a eu finalement la révolution de mai 68 sur la mode et ce que la jeunesse a apporté de nouveau dans le rapport au corps. Alors d'abord, pourquoi la rue ? Excusez-moi, pardon. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de la rue ? C'est parce que, évidemment, c'est le théâtre de toute cette révolte anti-autoritaire qui se tient à l'époque contre la France gaullienne, qui est plutôt pudibonde. Et donc, on y voit fleurir des manifestations, des affiches, des slogans, mais on y voit aussi fleurir des mini-jupes, des jeans ou des femmes en pantalon. Et donc, on va voir comment, en investissant l'espace public, on peut légitimer son combat et à quel point le corps fait partie de ces revendications. Et ensuite, pourquoi la jeunesse ? Simplement parce que c'est l'acteur principal de la révolution des mœurs qui accourt à ce moment-là. De baby-boomers hein, qui sont nés au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils bénéficient tous d'un pouvoir d'achat plus important que celui de leurs parents. Ils ont l'avantage de connaître cette période économiquement prospère des Trente Glorieuses, l'avènement de la société de loisirs aussi. Et donc, ça va créer une jeunesse qui va être assez ouverte au dialogue social et médiatique. Et sa parole ensemble, puisque là où avant on passait d'une famille à une autre en passant de celle de ses parents à celle de son nouvel époux, de sa nouvelle épouse, là on a une période de latence qui va se créer avec l'allongement des études qui fait que les jeunes vont avoir l'occasion d'échanger entre eux, de passer du temps ensemble, et donc va émerger une sociabilité autonome qui va leur permettre de libérer leur parole et d'engendrer la vie quotidienne. Alors là, je vous ai une petite citation d'un pamphlet qui a été écrit par des étudiants de l'Université de Strasbourg et des membres de l'Internationale situationniste en 66 et qui a beaucoup inspiré la pensée de mai 68. Donc la révolte de la jeunesse contre le mode de vie qu'on lui impose n'est en réalité que le signe avant-coureur d'une subversion plus vaste qui englobera l'ensemble de ceux qui éprouvent de plus en plus l'impossibilité de vivre, le prélude à la prochaine époque révolutionnaire. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que la révolte de la jeunesse en mai 68, elle correspond à celle-ci, à ceux qui éprouvent de plus en plus l'impossibilité de vivre. Et donc, toute une tranche de la population qui va chercher des alternatives aux rapports sociaux, aux valeurs, à la morale, et à finalement tous les domaines de la vie qui leur sont imposés par la tradition occidentale et qu'ils considèrent comme étant oppressifs. Et tout ça, cet idéalisme-là, il va se traduire également dans le vêtement. Donc on va acquérir bruyamment des libertés que jusque-là, peu de gens osaient défendre publiquement. Alors je vais vous exposer donc, les façons dont la jeunesse a pu, via ce catalyseur qu'a été mai 68, s'affranchir de tout un tas d'injonctions qui étaient propres aux vêtements, pour élaborer un nouveau système et légitimer des pièces et des pratiques qu'on considérait jusqu'à leur prise de parole comme transgressives. Donc, même si on se concentre sur mai 68, je vais évidemment élargir un petit peu à quelques années avant, quelques années après. Donc voilà, pour rappel, donc on est donc dans ce contexte des Trente Glorieuses qui est économiquement prospère, mais ça n'empêche pas un contexte de crise véritablement. On a notamment plusieurs facteurs, la massification de l'enseignement supérieur, puisque à l'époque, les jeunes représentent un tiers de la population, et donc on n'est plus en mesure de tous les accueillir à la Sorbonne. C'est pour ça qu'on ouvre l'université de Nanterre en 64, qui a été bâtie sur un lieu dit qu'on appelait la Folie, et juste à côté d'un bidonville. Et on a également beaucoup de chômage. Il y a déjà un demi-million de chômeurs en 67, l'année où on crée la NPE. Les jeunes sont les premiers touchés. 5 millions de personnes en France en 68 vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a la fermeture de nombreuses usines. Donc on ne manque pas de revendications politiques, sociales, mais c'est quand même une révolution qui a plusieurs visages. Parce qu'au-delà de ces revendications-là, on a une génération qui a des revendications à caractère véritablement idéaliste. Ils veulent l'imagination au pouvoir, ils voient la beauté dans la rue, ils veulent vivre sans temps mort et jouir sans entrave. Donc au-delà de revendications purement politiques, on se rend compte qu'il y a affaire à une certaine crise de la représentation pour ces jeunes qui ne se reconnaissent pas dans tous les modèles qui leur ont été imposés par les générations précédentes. Et donc ils vont essayer de construire autre chose ensemble, pour essayer de reconnaître toutes leurs valeurs communes à travers leur habillement également, comme un signe d'appartenance à une pensée libertaire. Donc alors prendre conscience de l'universalité des questionnements de sa génération et les cristalliser par le vêtement, c'est pas un phénomène nouveau dans l'histoire de la mode. Hein. Je pense par exemple, dans la deuxième moitié des années 1790, c'était déjà un petit peu le cas avec les Incroyables et les Merveilleuses, qui scandalisait la France plutôt pour le moins rigide du directoire par notamment les coiffures en oreilles de chien pour les hommes et les vêtements à la grecque tirant vers la transparence pour les femmes. Et également, ce sera le cas quelques années plus tard, par exemple avec les punks, dont des valeurs comme la contestation de l'ordre établi ou la notion de liberté individuelle vont vraiment se lire dans le vêtement. Et donc c'est avec la même insolence un petit peu mutine que toute cette génération, à la fin des années 60, va faire du pantalon féminin un vecteur de toutes les revendications féministes qui ont cours à l'époque. La mini va pouvoir devenir l'emblème de la révolution sexuelle et le jean va ouvrir la voie à la possibilité d'une mode unisexe, par exemple. On est quand même donc je pense qu'il est important de rappeler, excusez-moi, qu'on est dans un contexte de mondialisation et que du coup la diffusion de l'information s'accélère énormément à l'époque. Et donc la garde-robe des jeunes de mai 68 va renseigner sur ce qu'ils veulent véhiculer en s'inspirant de plusieurs influences, que ce soit de l'ordre de la provocation inconsciente ou de l'affichage ostensible de son appartenance à une identité. Donc en termes d'influence, on va faire un petit inventaire. On a d'abord le vestiaire ouvrier. Donc je ne vais pas vous parler de la mini-jupe en l'occurrence, mais du col roulé, qu'on retrouve sur beaucoup de personnes dans les rues en mai 68. C'est un vêtement qui d'abord appartenait au vestiaire sportif. Il a émergé à la fin du 19e. On l'utilisait plutôt pour les sports de plein air, le golf, le hockey. C'était porté par les deux genres, mais très vite, ça a été un vêtement qui a été accaparé par les marins, et c'est vraiment devenu un vêtement de travail. Donc on peut supposer qu'il y a, dans le fait de multiplier ces cols roulés, peut-être une référence à une idéologie de gauche qui se place du côté des travailleurs, ou alors peut-être une petite forme d'insolence qui rappelle notamment les exubérances des Azou dans les années 40, qui portaient de très hauts cols, et à une période de rationnement, c'était vu comme une grande insolence. Donc on a aussi, par rapport au vestiaire ouvrier, le jean, hein, qui depuis l'arrivée des GI pour la Seconde Guerre mondiale, a vraiment essaimé dans les usines et a été porté par beaucoup de travailleurs, parce qu'il s'agit d'un vêtement donc en toile robuste, renforcé par des rivets de cuivre, des doubles coutures aux poches, tout ça. Et ça a été donc un vêtement qui a été très prisé dans un premier temps au 19e siècle des cow-boys, des bûcherons, des fermiers, puis après vraiment du monde ouvrier. Et donc, là encore, on voit dans l'habillement des jeunes de mai 68 une volonté de se placer du côté des travailleurs, comme, comme une espèce de refus de la raideur bourgeoise qu'il combatte. Et comme un même vêtement ne raconte jamais, raconte toujours plusieurs histoires, il est important de rappeler aussi que le jean, depuis les 20 années précédentes, c'était aussi un élément de protestation très important dans le vestiaire de nombreuses contre-cultures. Je pense par exemple au blouson noir ou aux Teddy Girls à Londres dans les années 50 qui représentaient l'émancipation de la classe ouvrière féminine de Notting Hill et qui portaient également des jeans comme un refus de l'ordre établi. Donc on a également une influence encore timide mais du mouvement hippie. Là encore, on peut le voir avec le jean, puisque s'il a été prisé dans le vestiaire ouvrier, il a également été dans le contexte du Summer of Love en 67 à San Francisco. Donc les jeunes de mai 68 et la jeunesse hippie américaine, ils vont se retrouver donc, dans plusieurs idéaux, hein, les idéaux anticapitalistes, une certaine volonté de pacifier les politiques extérieures, mais aussi une pensée très hédoniste et un nouveau rapport au corps et à la sexualité. Et donc là où les ouvriers prisaient plutôt des modèles 501 ou des jeans droits et assez basiques, les hippies introduisent la coupe patte def qui va énormément mouler le bassin, les cuisses et s'élargir au niveau des jambes. Et donc c'est assez drôle de voir qu'un même vêtement peut faire référence soit à un côté travailleur et ouvrier, soit à quelque chose d'un peu plus sulfureux qui renvoie à tout un hédonisme idéaliste qui est le propre des hippies à l'époque. Alors donc même si on a encore peu de pattes d'œufs en France, hein, comme vous pouvez le constater là sur cette image, c'est pas la coupe qui est la plus prisée. En revanche, il y a le même phénomène d'adoption massive du jean par toute une génération, comme une sorte d'étendard universel un peu des valeurs qui les représentent. Ensuite, l'influence hippie, hein, ça va être assez limité puisque le mouvement va beaucoup plus se développer dans les années 70, mais on commence déjà à voir plusieurs influences déjà dans la rue en mai 68. On a par exemple l'arrivée un petit peu précoce de la mode maxi, hein, des robes très longues qui sont portées par les hippies et qui vont vraiment essaimer dans les années 70. On a aussi du côté des hommes un refus de la tonsure militaire, hein, qu'on moque un peu en se laissant pousser les cheveux, même si les longueurs sont un petit peu moins outrées qu'outre-Atlantique. Mais une autre influence qui est peut-être celle qui est la plus palpable, ça va être celle du Swinging London. Donc qui caractérise toute l'euphorie anglaise qui a cours dans les années 60 et dont la pop culture inonde vraiment l'Occident à ce moment-là. Donc en matière de mode, chez les jeunes anglais à l'époque, pardon, ça se manifeste par la multiplication de couleurs, d'imprimés, d'accessoires outranciers, de tout un tas de matériaux. Donc en France, on a des postures quand même moins excessives, mais on s'inspire quand même de ce qui se passe là-bas. On adopte pas mal de robes et de blouses à motifs géométriques ou floraux qui s'inspirent du psychédélisme londonien. Mais ce qu'on retrouve surtout avec la même ardeur que dans le Swinging London, c'est la mini-jupe ou la mini-robe, le mini en règle générale. Donc on en attribue l'invention à Mary Quant, qui était une créatrice anglaise. Mais elle-même précise que la mini n'était pas quelque chose qui était voulu, mais que les femmes elles-mêmes ont petit à petit relevé leur jupe et que ce vêtement était inévitable. Donc c'est une pièce qui est emblématique des Swinging 60s, mais elle incarne aussi bien l'âme révoltée des féministes qui descendent dans la rue en mai 68. Et donc ça va me permettre d'introduire une autre partie dans laquelle je vais vous parler de la façon dont a émergé à l'époque un nouveau langage du corps, et donc en me concentrant plus sur le vestiaire féminin et le rapport à la révolution sexuelle et au combat féministe. Alors là, je vous ai mis quelques images d'illustration pour vous parler de la révolution sexuelle. Ça, c'était la pop culture à laquelle les jeunes étaient exposés à l'époque. Donc la révolution sexuelle, c'est le phénomène majeur qu'on associe, enfin un phénomène majeur qu'on associe à la pensée de mai 68. Alors c'est un moment donc, où on décide de mettre des questions du domaine privé véritablement sur le devant de la scène et d'en discuter en place publique. Alors, ce qu'il y a de révolutionnaire dans tout ça, ce n'est pas tant le fait de remettre en cause la sexualité par rapport à la morale, puisque c'est quelque chose qui a déjà été fait, notamment avec les libertins au XVIIIe siècle. Mais ce qu'il y a de très révolutionnaire dans ce contexte, c'est le fait d'extraire ces considérations vraiment du domaine de l'intime, d'en admettre le caractère universel et par là même donc de pouvoir questionner le rapport qu'entretient la société avec ces questions d'ordre sexuel. Alors, pour mai 68, ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si les historiens arrivent à s'accorder sur le point de départ, mais il y a plusieurs points de départ qui ont été soulignés, notamment le refus, on a refusé aux garçons de l'université de Nanterre d'accéder au dortoir des filles. Et un autre événement qui pourrait aussi faire charnière, c'était l'inauguration de la piscine du campus de Nanterre le 8 janvier 68, lors de laquelle François Missoff, qui était le premier ministre de la Jeunesse et des Sports, s'est rendu après avoir réalisé son opération Livre Blanc, qui constituait à faire une enquête sur les problèmes de la jeunesse et à trouver des moyens d'y pallier politiquement. Et ce jour-là, donc Daniel Cohn-Bendit était venu le confronter en lui disant que son rapport, c'était 600 pages d'ineptie, puisqu'il n'y avait même pas un mot sur les problèmes sexuels des jeunes. Donc ça prouve que la sexualité, c'est quand même un enjeu qui est capital chez ces jeunes qui font la révolution en mai 68. Et donc, au-delà du langage verbal dont ils vont user pour le débat, ils vont mettre en place un langage du corps qui va se renouveler par rapport à celui de leurs parents, afin de coller à leurs idéaux et de balayer les entraves à la jouissance comme ils le souhaitent. Et donc, une pièce qui va être catalyseur de tout ça, c'est donc le mini, qu'on retrouve vraiment à son apogée à ce moment-là, puisque c'est... Excusez-moi, c'est là, en 68, la mini atteint l'aboutissement de son rétrécissement. On est à des longueurs qui permettent de voir la culotte. Et c'est quelque chose qui est le fruit donc, d'une émancipation de la femme qui est progressive, notamment depuis les années 20, hein, où les femmes avaient déjà commencé à raccourcir un petit peu les robes, à abandonner les corsets, à dévoiler le mollet pour aller danser le Charleston. Ensuite, ce raccourcissement s'est poursuivi... Assez timidement, hein, puisqu'on gardait toujours les jambes de la femme confinées à un domaine plutôt érotique. Je pense par exemple à l'imagerie de la pin-up des années 50. Et donc, factuellement, les jambes des femmes sont restées assez dissimulées à la ville jusqu'aux années 60. Et c'est qu'à partir du début des années 60 que là, vraiment, le raccourcissement s'est fait en même pas une décennie. On a atteint des longueurs très, très courtes. Et donc ça, c'est probablement quelque chose qui est permis avec la nouvelle permissivité sexuelle. Enfin, c'est des phénomènes qui disent des choses l'un de l'autre. Et donc la mini devient une pièce référente de cette génération. Pourtant, au départ, la mini choque déjà en étant juste au-dessus du genou. Hein. C'est dire l'aura révolutionnaire qu'elle peut avoir quand elle est portée dans un contexte de révolution, de revendication vis-à-vis du changement de mœurs en mai 68. Donc, qui plus est, on est à un moment où véritablement elle se répand partout dans le monde. C'est une pièce qui essaime énormément. Et ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, c'est une mode qui ne prend plus pour modèle la femme de 30 ans, comme c'était classiquement le cas. Mais là, c'est la jeune fille de 15-20 ans, celle qui, à l'époque, donc découvre sa sexualité et refuse de se subordonner à tout un tas de traditions sexistes. Et c'est peut-être aussi ça que le vêtement veut dire. Donc la mini, oui, ça incarne la libération de la femme. Et donc tout ça, ça passe par une redéfinition de la sexualité et de la libido à l'aune du féminin. Et c'est permis par exemple, je pense à Simone de Beauvoir. Elle considérait que la frigidité chez les femmes, c'était un problème qui pouvait être lié à la peur de la grossesse. Et donc en 67, hein, un an avant, on a le passage en France de la loi Neuwirth qui autorise la contraception orale. Donc les femmes sont dans une période où elles estiment pouvoir redécouvrir leur sexualité à l'angle du plaisir et non plus simplement de la reproduction. Donc faire le choix de sexualiser son corps comme on le veut, comme le permettent les combats féministes, ça permet également ce genre de liberté vestimentaire et qui ne doit pas, je pense, être considérée simplement comme une provocation aguicheuse, mais comme une véritable aussi volonté de s'extraire d'une objectification assez étouffante dans laquelle les femmes étaient contraintes depuis, enfin elles le sont encore en certaines mesures, depuis la nuit des temps. Et donc si on se bat pour le droit de dire oui, on peut considérer avec le système ouvert de la mini-jupe, on se bat aussi pour le droit de dire non. Là je vais vous parler du pantalon féminin qui relève plutôt lui du système fermé donc. Alors, l'interdit pour la femme de porter des pantalons remonte à la nuit des temps. Hein. C'était déjà précisé dans la Bible, hein, dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome. Il est dit que la femme ne portera pas d'habit d'homme, sinon elle est en abomination devant l'Éternel. Donc, si la première fonction du vêtement était de cacher la nudité, la deuxième était certainement d'attester d'une forme de supériorité du masculin sur le féminin. Et donc, c'est avec cette génération, en mai 68, que le pantalon chez les femmes devient véritablement un fait acquis. Mais il est quand même le fruit d'une longue histoire scandaleuse, hein, puisque dans toute l'histoire, ça a mis beaucoup de temps à se faire accepter. Le fait de porter de la culotte était, par exemple, un des chefs d'accusation qui avait été retenu contre Jeanne d'Arc lors de son procès. Ensuite, les pantalons ont commencé à arriver à la fin du 19e, hein, où ils étaient portés par les femmes dans un contexte ouvrier d'abord, dans les mines de charbon en Angleterre notamment. Puis après, on les a légitimés dans un contexte de déguisement. Je pense à, par exemple, les pantalons à rèmes de Paul Poiret ou Sarah Bernard qui en portait à la scène, ou alors dans un contexte plutôt de sport, comme ça a été le cas avec Chanel quand elle a sorti ses pantalons de yachting. Donc ensuite, dans les années 30, il y a quelques figures féminines qui peuvent se permettre ce genre d'exubérance. Hein. Je pense à Marlène Dietrich, à Greta Garbo ou à Catherine Hepburn, qui commencent à légitimer le pantalon pour femmes comme étant un élément de vestiaire incontournable. Quelques femmes ensuite, dans les années 40, en France, avec le mouvement Zazou encore, qui emportaient pour aller danser le swing pendant que leur congénère qui avait pris la place de leur mari à l'usine, elle emportait par souci de confort et dans un contexte de travail. Mais dans les années 50, le pantalon est toujours interdit dans les lycées de jeunes filles en France et il est également interdit dans les administrations les plus diverses. Les femmes n'ont pas le droit de le porter. Et c'est vraiment dans les années 60 que va se légitimer le pantalon. Vêtements. Et c'est un moment où les femmes vont se retrouver au sein des assemblées étudiantes dans tout un bouillonnement activiste qu'elles pensent égalitaire, mais elles vont se rendre compte qu'en fait, elles restent encore leurs paroles restent subordonnées à celles des hommes. Et elles prennent conscience de leur oppression au sein d'un mouvement libérateur. Et donc le pantalon, dans ce contexte-là, peut manifester la volonté de mener une véritable existence autonome qui serait affranchie de l'autorité masculine. Et c'est très significatif puisque en 1969, donc au sortir de cette révolution, on ne produit que 4,5 millions de pantalons en France. Et 3 ans plus tard, en 72, on est à 28 millions. C'est quelque chose qui a été complètement légitimé en très très peu de temps. Et donc c'est un acte qui ne peut pas rester confiné au domaine de la mode puisque ça remet en cause la société d'une manière un peu plus globale et ça remet en cause le système de pensée sur lequel elle est bâtie. Alors c'était en 1969, il y avait 4,5 millions de pantalons qui ont été produits en France, pantalons féminins, et en 72, 28 millions. Je vous en prie. Voilà, donc c'est le pantalon, la mini-jupe, en fait, ça peut dire des choses différentes, mais dans tous les cas, c'est une volonté de la part des femmes qui les portent de pouvoir gouverner son corps et d'en disposer à sa guise, comme les hommes l'ont toujours fait avant elles dans l'histoire. Et donc peut-être ce qu'il est intéressant de retenir de la mode de rue en mai 68, c'est qu'aux notions de genre, de classe ou d'âge qui étaient inhérentes à la manière de se vêtir, on essaye de substituer autre chose, à savoir l'appartenance à une pensée libertaire, insolente et plus tournée vers la vie. Et donc c'est en s'imposant avec son identité vestimentaire aussi forte que la jeunesse va réussir à se créer une place dans une société qui n'était pas prête à l'accueillir de par son ombre. Et je trouve ça intéressant de pouvoir lier la perturbation démographique et ce refus de la tradition comme quelque chose qui a favorisé le passage en force de pratiques de mode révolutionnaires et qui a peut-être permis d'imposer une conception un petit peu plus égalitaire des genres. Et en ça, peut-être que cette génération a un petit peu réussi son pari de vouloir révolutionner la vie quotidienne. Voilà.
Une petite remarque par rapport à votre exposé extrêmement intéressant. J'étais moi-même étudiante en mai 68 à Nanterre. Et intéressée par la mode, puisque par la suite j'ai travaillé dans la mode, et donc j'ai témoigné de ça dans un livre qui vient de sortir sur mai 68 par ceux qui l'ont vécu. Et je voulais juste ajouter par rapport à ce que vous disiez, que dans, à la fois dans le jean et dans les mini-jupes, il y avait une grande créativité qui était aussi typique de l'époque. Parce que ces fameuses mini-jupes, quand on n'avait pas les moyens d'aller les acheter à Londres chez Marie Kondo, on les fabriquait nous-mêmes en patchwork, par exemple. Et donc elles pouvaient être très différentes. Et même chose pour les Shetland qui accompagnaient et les mini-jupes et les jeans, il fallait avoir le nombril à l'air. Et pour ça, on allait au BHV acheter des pulls pour les enfants, et le plus serré possible pour être sûr d'avoir le nombril qui sortait. Ce qui fait que même cette population étudiante qui n'avait pas beaucoup d'argent arrivait à customiser, c'est devenu ça après, ses tenues. Voilà.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est vrai, parce qu'il y a toute une pratique, la pratique du do-it-yourself, c'est quelque chose qui, c'est vrai, a été beaucoup employé, notamment par les catégories des jeunes dans l'histoire de la mode, et c'est vrai que ça peut rappeler également, comme c'était le cas avec les jeans des hippies qui portaient des patchwork à l'époque, ou même plus tard les punks qui customisaient leurs vêtements.
Et surtout que cette génération, nous avions appris à coudre. Contrairement aux suivantes, on apprenait à coudre au lycée. Quoi. On n'avait pas le droit de mettre des pantalons, mais on cousait. Voilà, c'est une petite remarque.
Vous avez une question à côté?
Oui, bonjour. Moi, je suis un peu dubitative quand vous parlez de jeans à l'usine. Oui. Parce que les ouvriers étant quand même sous l'influence du Parti communiste et très anti-US, je ne suis pas très sûre qu'il y avait beaucoup de jeans à l'usine. Il y avait les bleus, mais les jeans, je doute.
D'accord. Du coup, pour votre intervention, je suis assez d'accord avec chaque argument que vous avez énoncé et assez émerveillé de voir, surtout dans un travail de recherche, des choses qui effectivement me semblent tout à fait importantes et primordiales pour comprendre l'histoire de la mode actuelle, je veux dire tout à fait contemporaine. La seule chose, la seule remarque peut-être que je voudrais vous faire, c'est que vous parlez uniquement du cas des femmes. Est-ce que peut-être vous allez parler aussi du cas des hommes? Parce qu'il me semble, je crois que la révolution se passe autant du côté féminin que masculin, parce que oui, le fait sûr. Que l'androgynie puisse justement, avec les vêtements plus étriqués, les pattes d'ef, les cheveux plus longs, etc., il me semble que c'est là aussi que se situe la révolution.
Oui, oui, bien sûr, tout à fait. C'est vrai que j'ai décidé, par souci d'économie de temps, de limiter mon exposé à quelques pièces fortes. Et là, en l'occurrence, je trouvais que le pantalon féminin et la mini-jupe étaient assez emblématiques pour aborder le sujet. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'il mériterait également d'approfondir ce sujet. Là, je peux pas vous en dire énormément, beaucoup plus, mais c'est vrai qu'il est intéressant, qu'il serait intéressant d'étudier, ne serait-ce que par exemple le rapport à la pilosité, à la capillarité. Il y a quelque chose de très signifiant à cette époque-là, notamment pour peut-être plus d'ailleurs pour les hommes que pour les femmes. Non, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que c'était plus par souci d'économie de temps que.
Parce que j'avais lu un article de je sais plus quel bouquin, je pourrais vous le retrouver si ça vous intéresse, en Amérique, quand les Beatles étaient passés à la télévision à CBS, qu'ils avaient fait leur premier show américain, quelques temps après, tout un tas de collégiens ont voulu se laisser pousser les cheveux comme les Beatles et ont été tondus comme des moutons par les directeurs des écoles qui trouvaient ça absolument affreux, que les garçons aient les cheveux longs, ça manquait d'hygiène, etc. Et là, il y a quelque chose aussi, me semble-t-il, absolument primordial dans le rapport à la masculinité et à la virilité vestimentaire sur tout de suite... Avec des mots qui en réalité sont faux. Quand on dit garçon cheveux longs égale manque d'hygiène, en fait c'est juste qu'on a peur des garçons efféminés, voilà tout. Ouais. Et il y a tout un tas de caricatures aussi qui fleurissent dans les années 60 de personnes, qui ont connu l'ancien temps, enfin vraiment les Trente Glorieuses qui ont connu la guerre et qui n'arrivent plus à faire la différence justement entre garçons et filles. Quand les filles portent des pantalons et les mêmes quasiment que leurs confrères masculins, c'est là que se situe aussi la nouveauté. Donc
oui, tout à fait. Non, vous avez raison, c'est très intéressant. Et c'est vrai que ça mériterait d'être approfondi plus longuement, en effet. Ouais. Merci.
Bonjour. Laetitia Pierre, Institut Marangoni. Merci beaucoup pour votre communication. J'avais peut-être une, si j'ai le temps, deux questions. La première question, c'était... j'étais interpellée notamment par le choix très judicieux des pochettes de disques que vous avez fait apparaître. Celle de Melody Nelson avec notamment Jane Birkin, 1971. Oui. On voit un pantalon pâte d'ef.
Oui,
et ça, c'est très intéressant parce que là, ce disque-là fonctionne très bien. Oui. Il se vend énormément. énormément. Gainsbourg, là, fait vraiment un hit considérable. Est-ce que vous avez envisagé l'incident, justement, de cette iconographie du disque par rapport à, justement, le développement, justement, de cette mode?
Oui, de toute façon, c'est vrai que je pense que la pop culture et la mode, c'est assez signifiant pour ce genre de phénomène, surtout à cette période où c'est aussi il y a une telle effervescence. Alors, sans avoir directement lié tout ça, je pense que oui, il y a une étude véritablement à faire, ne serait-ce que quand on voit que toutes les contre-cultures de l'époque sont chacune liées à des mouvements musicaux ou des choses comme ça, que ce soit contre-culture ou pop-culture même, le mainstream. Et en effet, ouais, ça mériterait de faire une étude par rapport à ça. Là, c'est vrai que ça avait juste valeur d'illustration dans... Je trouvais ça assez signifiant de voir et du cuir, et du mini, et du jean, et du dénudé pour toute cette période qui est celle de la révolution sexuelle. Mais vous avez raison, c'est vrai qu'il y aurait un travail iconographique intéressant à faire en termes de comparaison.
Ma deuxième question, si j'ai le temps, hein, vraiment. Vous parliez encore de révolution sexuelle. Moi, j'avais lu quelques études dans lesquelles on parlait justement de la difficulté pour ces jeunes filles et ces jeunes femmes de mentaliser, entre guillemets, de conscientiser ce rapport justement entre leur apparence et cette aspiration à l'émancipation. Et je me rappelle notamment de ma maman qui travaillait à ce moment-là, qui n'a pas participé directement à mai 68, mais qui m'expliquait que porter une mini-jupe, alors qu'elle était très régulièrement sollicitée dans la rue, c'était très pénible. Elle avait même peur. Il y avait vraiment une très forte pression quant au fait de porter une mini-jupe au quotidien dans la rue pour aller travailler. Elle ne renonçait pas pour autant à ce droit. Et elle ne le mentalisait peut-être pas forcément dans l'idée d'une revendication de son émancipation sexuelle, mais dans le fait même d'exister en tant que telle. Et j'ai l'impression que le rapport au pantalon n'était pas tout à fait le même. La jupe avait une dimension existentielle, c'est-à-dire que tout d'un coup, on était présent, on était visible. Ça va peut-être au-delà même de la relation à une identité sexuelle propre.
Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. J'ai assez restreint le spectre, mais tout à fait, la mini-jupe veut dire aussi cette liberté, ce droit à exister qui s'assume dans le fait de pouvoir choisir son vêtement. Et c'est plus ce qui m'a permis de lier pour le coup la mini-jupe et le pantalon, cette notion de choix en fait et d'exercice de la liberté individuelle. Mais vous avez raison de le souligner. Merci.
Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que la transformation de l'émotion, elle est moindre, mais aujourd'hui, à cette époque, on parlait des pantalons, de montrer les jambes, de rallier sexualité et tenue vestimentaire. Et pas plus loin qu'hier, j'ai lissé Cyril, et on entend à la télé ce qui se passe aujourd'hui dans les lycées, dans les écoles. Et donc il y a les mamas qui se plaignent, les mamas féministes qui vont dire pourquoi ma fille n'a pas le droit d'aller à l'école en mini-jupe, en mini-short. Donc on croit qu'aujourd'hui on est très évolué, ouais. Mais moi j'étais choquée, je ne savais pas quoi penser en fait. Donc on est où dans les féminismes? Est-ce qu'en fait on est loin encore? Parce que si on n'a pas le droit de porter mini-jupe... On va provoquer les garçons, et ça nous arrive encore aux femmes aujourd'hui, dans les cadres du travail, sans provoquer la vulgarité. Enfin, là, après, il y a une autre chose, il a des tenues. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On est encore devant une révolution.
Je ne sais pas si on est à l'aube d'une nouvelle révolution, mais en tout cas, c'est vrai que ces pièces n'ont quand même pas perdu grand-chose de leur aura scandaleuse, hein, enfin, surtout le mini. Et je pense que c'est. J'ai du mal à vous répondre parce que c'est vrai que je ne veux pas faire de prédictions sur l'avenir de l'émancipation de la femme ou de l'évolution du féminisme, mais oui, c'est un combat qui est encore en cours. En tout cas, vous avez raison, je ne pense pas que tout soit acquis à ce niveau-là, mais c'est... Disons que là, ce que je trouvais signifiant dans cette génération, c'est qu'elles ont imposé en tout cas l'existence de ce vêtement comme étant quelque chose que les femmes pouvaient avoir dans leur garde-robe. Maintenant, l'acceptation de celui-ci par le reste de la société, en effet, il y a peut-être encore un peu de travail.
Bonjour. Une question concernant l'influence culturelle, transculturelle, on dirait. Après tout, mai 68, en fait, commence aux États-Unis, notamment à Columbia University. Est-ce qu'il y a, en fait, peut-être de par les médias, une influence du fait, par exemple, les étudiants américains ou américaines, plutôt, dans votre contexte, portaient déjà les jeans? Est-ce que ça aurait influencé les étudiantes françaises ou...
C'est possible, hein, je pense, parce que les étudiants étant à cette période vraiment exposés à l'information comme ils ne l'ont jamais été avant, après, ça reste de l'ordre de la supposition, il faudrait voir s'il y a des... je pense qu'en fait, c'est ça le problème avec ce genre de problématique, c'est que on va pas trouver, enfin, j'ai pas trouvé de témoignage de jeunes qui disaient moi je porte un pantalon parce que je m'inspire des hippies ou des choses comme ça. Maintenant c'est vrai que on peut pas nier que potentiellement il y a une influence, que ce soit inconscient ou non, tout comme ils ont pu s'inspirer de la pensée situationniste, de la Commune 1 à Berlin, des choses comme ça, c'est vrai, mais après, n'ayant pas de témoignage direct, je...
S'il vous plaît. Il y avait des images, il y avait des films, il y avait des débuts de la télévision, même en noir et
blanc, sûr.
Et la presse. Donc on avait des images de tout ça, de ce qui se passait ailleurs. Que le mouvement était international, politiquement, et du point de vue de la
presse. Et je crois que c'est un numéro de Elle de 1952, il y a le premier pantalon sur corps plage, et c'est directement les États-Unis. Et Nazareff écrit que ça vient directement des États-Unis. Ah, c'est un pantalon porté, je pense, le week-end. Là, l'influence, elle est... Et puis comme le magazine se veut américain, au format américanisé, la France américaine, elle est dite en tout cas déjà. Enfin, c'est
vraiment... Oui, bien sûr.
Si je puis me permettre juste une petite réponse à la dame qui avait mentionné la question du Parti communiste. En fait, en tout cas dans les années 60, en tout cas dans l'industrie aéronautique, c'est encore en fait le principe de la salopette que les hommes portent. Et c'est de la grosse toile. En fait, c'est bleu. En fait, c'est du jean. Simplement, on ne va pas l'appeler du jean. Et un ouvrier, probablement, ne peut pas se permettre d'acheter des Levi's. Mais il y aura des marques équivalentes françaises. Donc, ça existait quand même.
Une question ?
Oui, alors moi je voudrais, bon, Martine Le Camus, Esmode, moi je voulais vous dire, j'étais en mai 68 étudiante, alors il y a deux soucis, enfin d'abord, c'est, quand on l'a vécu, c'est pas tout à fait de la même façon. D'abord, mini-jupe, ça a été permis parce qu'on avait des collants, parce que moi j'ai connu 2-3 ans avant, il n'y avait pas d'élastane, donc on était en chaussettes ou en bas, donc il ne faut pas l'oublier. On s'habillait court, mais pas si court que ça, et après quand on s'est habillé un peu plus court, on a mis des bottes l'été, il y avait des bottes en toile. Les ouvriers, je suis désolée, mais ne portaient pas de jeans. Les jeans, c'était les étudiants et ceux qui avaient de l'argent, sinon ils étaient tous en bleu de travail. Et le port du pantalon, parce que moi, j'ai commencé à travailler dans la mode très tôt, puisque je suis née dedans. Je peux vous dire que dans les années 80, il était interdit de porter des pantalons chez Nina Ricci et chez Dior pour aller travailler. Et l'été, on était forcément avec des collants. Il était impossible de venir jambes nues. Voilà. Donc, la découverte de l'élastane, ça a permis... S'il n'y avait pas eu l'élastane, on ne serait jamais habillé courte, hein. Moi, j'ai connu, voilà.
C'est sans de toujours replacer ce qu'on voit, de ce qu'on vit, parce qu'il y a toujours des décalages de toute façon.
Et tout à fait.
Ce qui est montré et véhiculé est quand même loin de la réalité quotidienne de la plupart des Françaises.
Tout à fait. Et vous savez, moi, je vivais à Paris. Il y avait ceux qui allaient casser, puis il y avait ceux qui étaient à la maison, puis qui étudiaient aussi. Hein.
Ah oui, bien sûr.
Et voilà.
C'était... Bien sûr, oui.
Donc, il y avait... Mais je pense que les étudiants ont eu du poids parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient gagner. Hein. Tout le monde pensait qu'ils pouvaient gagner. Et donc ça a donné. Et puis il y avait des ras-le-bol généraux, mais ça n'a pas changé grand-chose dans le quotidien de journée. Parce que même en travaillant dans la mode, on n'avait pas le droit de venir en pantalon. Hein. Et moi, j'ai vu refuser parce que j'étais en jean et venir le week-end ranger mon bureau, je n'ai pas pu rentrer dans les bureaux. Hein.
Mais même Hélène Lazareff, qui était féministe, interdisait à ses employés de venir en pantalon.
Mais bien sûr, faut pas. Enfin, il y a. Vous savez, vous regardez. Enfin, vous regardez les magazines de mode. Est-ce que vous voyez les gens dans le métro habillés pareil?
Oui, mais
moi j'étais à l'école de Chartres hier. C'est ce que on disait en tant que. Enfin, moi je suis pas historienne, mais bon. Voilà, la mode, c'est aussi quand on l'adopte, quoi. Il y a les couturiers qui influencent. Enfin bon, après, c'est un autre.
Oui, puis bon, je pense que l'étude que vous faisiez, c'était pas la. C'était aussi les représentations, l'image qui est véhiculée. Donc, aussi,
oui, voilà,
c'était votre propos tout à fait. Oui, c'était pas forcément d'avoir fait de l'archive orale et d'avoir questionné.
Non, c'était plus voilà, de constater quelles pièces ont émergé à ce moment-là et quels liens pouvait y avoir. Avec...
Je m'excuse, je vais encore vous raconter une histoire. J'ai vu pire. En 59, j'ai vu dans un lycée de la région parisienne, moi j'étais dans la petite classe, on avait interdiction de venir bien sûr en pantalon. Hein, et un jour, deux très bonnes élèves, deux sœurs, se sont vus interdire l'entrée de l'école et mises à pied pendant 8 jours, alors que c'était des excellentes élèves, parce qu'elles étaient venues en jean, parce qu'il neigeait, mais avec un vêtement rouge. Le rouge était interdit de porter du rouge dans l'école. C'était réservé aux notes, enfin, y a toutes des connotations, hein, et c'était au lycée Michelet de Vanves, vous voyez, ça m'est suivi. Donc vous voyez, le rouge.
Oui.
Non, pas une école religieuse, une école publique. Et c'est même des écoles qui font maths et maths spé. Enfin bon, des.
D'accord, merci beaucoup.
Étudier spécifiquement le sujet, mais c'est vrai que comme la mode était plutôt au psychédélisme au sein de la jeunesse, il devait y avoir peut-être un lien avec tout ça, mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci de votre intervention, c'était passionnant.